Potlatch, quatrième émission. Que fait Ernest Potlatch pendant les vacances d'été? Il bronze à la plage en pensant à Donald Trump. Il prépare son immersion dans le Black Panther Party. Il fête la victoire du Corps de l'Isère face à la France. Il reste dans son lit, transpirant, en lisant La Guerrière. Il va se mettre une claque au Void, peut-être. Ou bien va-t-il rejoindre Sade en enfer? Nous sommes à la veille du début de la Convention républicaine des États-Unis. Lundi, la ville de Cleveland s'est transformée en véritable bunker. Risques terroristes, tentatives d'assassinat de Donald Trump et mouvements anti-violence policière mettent la ville sous pression.
Quelqu'un a fait sauter l'Amérique. Ils disent que c'est un terroriste, un de ces Arabes, barbares, en Afghanistan. Ce n'était pas nos terroristes américains. Ce n'était pas le clan ou les skinheads, ou ceux qui font sauter les églises noires, ou qui nous réincarnent en couloir de la mort. Ce n'était pas la chaude pisse guindée, les draps blancs de la maladie, qui ont assassiné le peuple noir, terrorisé le corps et l'esprit de la plupart des hommes par plaisir. Qui s'est engraissé grâce aux plantations? Qui a génocidé les Indiens, tenté d'éradiquer la nation noire? Qui vit de Wall Street, la première des plantations, où on te les coupe, viole ta mère, linge ton père? Qui a eu le goudron, qui a eu les plumes? Qui avait le feu, qui l'a allumé, qui a tué et embauché? Qui dit qu'ils sont dieux mais tout en diable? À Ferguson, le 9 août 2014, un policier blanc, Darren Wilson, a tiré plusieurs fois sur un jeune homme noir de 18 ans, Michael Brown, qui, selon le témoignage de deux ouvriers travaillant sur place, s'enfuyait, les bras levés. Les manifestations se sont également étendues à d'autres villes comme Los Angeles, en Californie ou New York. Le 10 août donc 2014, un jour de deuil a débuté pacifiquement, mais certains individus sont devenus turbulents après une veillée à la bougie. Les postes de la police locale ont rassemblé 150 agents en tenue anti-émeute. Certaines personnes ont commencé à piller le magasin, à vandaliser des véhicules et à affronter les policiers qui cherchaient à barrer l'accès à plusieurs zones de la ville. Au moins 12 magasins ont été pillés ou vandalisés et un commerce de proximité et une station de service ont été incendiés, conduisant à plus de 30 arrestations. De nombreuses fenêtres ont été brisées et plusieurs commerces de proximité ont fermé ce lundi. Les personnes qui ont été arrêtées sont sous le coup d'une inculpation pour agression, cambriolage et vol. La police a utilisé divers équipements, dont du matériel anti-émeute, des hélicoptères, pour disperser la foule vers 2h du matin. Un an plus tard, le 10 août 2015, toujours à Ferguson. Cette ville était au bord du gouffre. De nouveau, un lundi soir. Un jour après, une cérémonie marquant l'anniversaire de la mort par balle de Michael Brown, le 9 août 2015. La ville voit de nouveau des coups de feu et un autre adolescent noir sera blessé lors des manifestations. L'état d'urgence est déclaré dans la ville de Ferguson pour endiguer la révolte. Angela Davis, ancienne membre du Black Panther Party dans les années 70, déclarera « Une transformation historique est en cours dans les métropoles occidentales. Depuis 2013, les États-Unis traversent une vague de contestation profonde des institutions policières et judiciaires, à la suite de la mort de trois hommes noirs, Trayvon Martin, puis Michael Brown et Eric Garner, entre les mains de la police. Un mouvement a vu le jour pour réclamer la justice sociale et raciale sous le nom de Black Lives Matter. Les vies des noirs sont importantes », dit littéralement le slogan. Cet énoncé prescriptif dénonce une politique systématisée qui veut que la vie d'une personne africaine, américaine, soit moins importante que celle d'une personne blanche. La violence à l'encontre des Africains-Américains ne se manifeste en effet pas seulement par des brutalités isolées, mais par une discrimination systématique au sein des institutions judiciaires et policières. Les crimes racistes commis par les forces de l'ordre, et parfois par des citoyens blancs, restent impunis, sont sciemment couverts par les instances de répression et sont socialement validés par les arbitrages judiciaires. Cette réalité est un secret de polichinelle. En faire le récit relève du lieu commun, mais il faut des milliers de personnes dans les rues pour l'imposer dans le débat public. Et c'est ce qui s'est produit. En 2 ans, la question des violences policières est devenue incontournable dans le paysage médiatique et politique états-unien. Ce tournant est le fruit d'initiatives multiples, des marches contre les violences policières jusqu'aux interpellations de candidats électoraux, en passant par une occupation résolue des réseaux sociaux, blogs et plateformes numériques. Cette vague contestataire est l'un des mouvements les plus prometteurs depuis Occupy Wall Street pour ceux qui luttent en faveur de la justice sociale et de l'égalité.
Qui s'est emparé de Porto Rico? Qui a pillé les Indes, les Philippines, Manhattan, l'Australie et les Hébrides? Qui a mis les Chinois à l'opium? Qui possède des immeubles? Qui a ramassé l'argent? Qui trouve que t'es marrant? Qui t'a mis sous les verrous? Qui possède les journaux? Qui possédait les navires remplis d'esclaves? Qui a fait tourner l'armée? Qui a nommé le président de Pacotille? Qui le patron? Qui le banquier? Qui c'est le pétrole? Qui ne se mouille pas trop? Qui c'est le propriétaire? Qui n'est pas un nègre? Qui est tellement grand qu'au-dessus, il n'y a personne? Qui a tué le plus de Noirs? Qui a tué le plus de Juifs? Qui a tué le plus d'Italiens? Qui a tué le plus d'Irlandais? Qui a tué le plus d'Africains? Qui a tué le plus de Japonais? Qui a tué le plus de Latinos?
Après la déclaration d'Angela Davis, abordons brièvement la question du racisme institutionnel développée par Stokely Carmichael, un autre membre du Black Panther Party. Carmichael considérait la non-violence comme une tactique et non comme un principe, ce qui le distinguait des militants modérés des droits civils tels Martin Luther King. Il critiquait ceux-ci qui appelaient simplement à l'intégration des Noirs américains dans les institutions existantes de la classe moyenne blanche. Car Michael estimait cette orientation irréaliste et insultante pour la culture et l'identité des Afro-Américains. Il milita dès 1967 au sein du Black Panther Party. On doit à Carmichael l'idée de racisme institutionnel. Au racisme individuel des sociétés occidentales qui, lorsqu'il s'exprime en parole et ou en acte, est un dommage causé par un individu à un autre, généralement puni par la loi. Carmichael oppose un racisme beaucoup plus sournois, celui des institutions, le racisme institutionnel qui n'est pas punissable par définition, mais qui peut être tout aussi violent. Carmichael va plus loin. Pour lui, le racisme institutionnel est le fondement même des sociétés occidentales. Il dira « La prospérité des sociétés occidentales repose sur le racisme institutionnel et par conséquent, mettre un terme au racisme institutionnel équivaudrait à détruire les sociétés occidentales. »
Certainly am. There are 50 million black living in the United States, and those Africans have to be organized to fight for their liberation.
Isn't there a possibility that you might end up in jail on your arrival?
I was born in jail. No way to turn, burn, baby, burn. Called President Johnson on the telephone. Humphrey said he wasn't at home. Trying to get hold of Dr. Martin Luther King. Abernathy said he wasn't there. Couldn't get no oil from the Rockefeller wells. I couldn't get no diamonds from his mine.
Yeah.
If I can enjoy the American dream, it won't be water but the fire next time. So I said, burn, baby, burn.
Burn, baby, burn. This is for the FBI.
We went down to the pit.
That's a hot line. That's just like man. Nothing is wasted. Everything just takes a different form. What form would you take?
Aussi, dans les années 70, il y a eu une lutte autour de la culture afro-américaine qui était tout autant défendue que la question des libertés et des droits. Et notamment un groupe, The Last Poets. Leurs paroles contestataires, aussi poétiques qu'engagées, avaient été considérées comme hautement subversives par le FBI qui avait déclaré les Last Poets, à l'instar des Black Panthers, les ennemis de l'Amérique au début des années 70. Leurs deux premiers albums, The Last Poets et This Is Madness, bien qu'ils furent interdits de radio, sont vendus 1 million d'exemplaires. L'art oratoire des Last Poets et la puissance de leurs verbes contribuent en plein mouvement pour l'émancipation des Noirs américains à dénoncer notamment une culture exclusivement aux mains des Blancs. Mais leur force et leur talent auraient été d'interpeller la population noire, en lui reprochant sa passivité vis-à-vis d'une société blanche qui la rejette. Des paroles provocatrices comme « Niggers are scared of revolution »,« Les nègres ont la trouille de la révolution » sont devenues des classiques.
Are scared of revolution.
Niggas.
But niggas shouldn't be scared of revolution.
All niggas.
Because revolution is nothing but change. And all niggas do is change. Niggas come in for vote and change in their pimping clothes. They hit the streets to make some quick change. Niggas change their hair from black to red to blonde. And old black hair and lips will change. Niggas kill other niggas just because one didn't receive the direct change. Niggas change from men to women, from women to men. Niggas change, change, change. You hear niggas say, things are changing, things are changing. Yeah, things are changing. Nigga things into black nigga things. Black nigga things that go through all kinds of changes. The change in the day that makes you rat and rave. Black power, and the change that comes over them at night.
And they silence, right by.
Niggas always going through bullshit change. But when it comes for real change, niggas are scared of revolution. Niggas are actors. Niggas are actors. Niggas act like they're in a hurry. They catch the first act of a great white host. Niggas try to act like Malcolm. And when a white man doesn't react toward them like he did Malcolm, niggas want to act violently. Niggas act so cool. And slip, causing white people to say, what makes you niggas act like that? Niggas act like you ain't never seen nobody act before. But when it comes to acting out revolution, niggas say, I can't dig in action. Niggas are scared of revolution. niggas to get high and ride to hell. Niggas talk about pimping, pimping that, pimping what? Pimping yours, pimping mine. Just to be pimping is a hell of a line. Niggas are very undercover people. Niggas talk about your mind, talk about my mind stronger than yours. I got that bitch's mind uptight. Niggas don't know a damn thing about your mind, but they be right. Niggas are scared of revolution. Niggas fuck. Niggas fuck, fuck, fuck. Niggas love the word fuck. They've been so fucking cute. They fuck you around. The first thing they say when they're mad, fuck it. You play a little too much with them. They say fuck you. When it's time at TCB, niggas are somewhere fucking trying to be nice to them. They fuck both of you. Niggas don't realize all they're doing all this fucking. They're getting fucked around. And when they do realize, it's too late. So niggas just get fucked up. Niggas talk about fucking, fucking that, fucking this, fucking yours, fucking masters. Not knowing what they're fucking for. Ain't fucking for love with a speech agent. Just fucking the beat fucking. Niggas fuck white thighs, black thighs, yellow thighs, brown thighs. Niggas fuck ankles when they want dollar thighs. Niggas fuck Charlie, Linda, too. And if you don't mind out, niggas will fuck you. Niggas will fuck, fuck if it could be fuck. But when it comes to fucking for revolutionary causes, niggas say fuck revolution. Niggas are scared of revolution. Niggas are players. Niggas are players, are players. Niggas play football, baseball, and basketball while the white man is cutting off their balls. When the niggas play, ain't tight enough to play with some black thighs. Niggas play with white thighs to see if they still have some play left. And when ain't no white thighs to play with, niggas play with themselves. Niggas tell you they're ready to be liberated, but when you say, let's go take our liberation, niggas reply, I was just playing. Niggas are playing with revolution and losing. Niggas are scared of revolution. Niggas do a lot of shooting. Niggas do a lot of shooting. Niggas shoot off at the mouth. Niggas shoot boo. Niggas shoot traps. Niggas cut them out the corners and shoot down the street. Niggas shoot sharp branches and white women. Niggas shoot dope until they arm. Niggas shoot guns and rifles on New Year's Eve. A new year, the shadows coming in. The white police will do more shooting at them. What are niggas when the revolution needs some shots? Yeah, you know, niggas are somewhere shooting the shit. Niggas are scared of revolution. Niggas are lovers. Niggas are lovers, are lovers. Niggas love to see Clark Gable make love to Marilyn Monroe. Niggas love to see Tarzan fuck over a native. Niggas love to hear the Lone Ranger yell, "Hi ho, Silver." Niggas love commercials. Niggas love commercials. Oh, how niggas love commercials. You can take niggas out of the country, but you can't take the country out of niggas. Niggas are lovers, are lovers, are lovers. Niggas love to hear Malcolm rap, but they didn't love Malcolm. Niggas love everything but themselves. But I'm a lover too. Yep, I'm a lover too. I love niggas, I love niggas, I love niggas. Because niggas are me, and I should only love that which is me. I love to see niggas go through changes, love to see niggas act, love to see niggas make them plays and shoot the shit. But there's one thing about niggas I do not love. Niggas are scared of revolution.
Qui possède l'océan, qui possède les banlieues, qui vampirise les villes, qui fabrique les lois, qui possède les colonies, qui a pillé le plus de terres, qui a le monde à sa botte, qui parle de bien en perpétrant que le mal, qui est le plus grand des bourreaux, qui a créé le Bagnaden pour en faire son Satan, qui a payé la CIA, qui savait que la bombe allait exploser, qui sait pourquoi les terroristes ont appris à voler au-dessus de la Floride sans îlot. Qui sait pourquoi 5 Israéliens étaient en train de filmer l'explosion et se bidonner à l'idée de filmer? Qui a tué David Sibeko, Chris Annie, et même qui ont tué Biko, Cabral, Neruda, Allende, Che Guevara, Sandino? Qui a tué Kabila? Les mêmes qui ont éliminé Lumumba, Mundiane, Betty Shabazz, Dai, Lady Di, Ralph Witherspoon, Little Bobby? Qui a besoin de combustible quand le soleil n'est pas nulle part?
On enchaîne avec un extrait d'un film, d'un tout petit film que vous pouvez retrouver sur internet qui s'appelle Now. C'est un film de 1965 du cinéaste militant cubain Santiago Alvarez, image d'archives et de violences policières contre le mouvement des droits civiques noirs américains. C'est un film pamphlétaire dans la lignée d'autres cinéastes et collectifs de cinéastes tels que Fernando Solanas, Chris Marker, le groupe Medvedkin ou le groupe Dziga Vertov. On y entend dans l'extrait qu'on va écouter un morceau de la chanteuse Lena Horne, qui s'appelle justement Now. Lena Horne fait ses débuts en 1942 dans Panama Ati et devient célèbre en 1943 pour son interprétation de Stormy Weather dans le film du même nom. Elle apparaît ensuite dans de nombreuses comédies musicales de la MGM, toutefois elle n'aura que peu de premiers rôles du fait de sa couleur de peau. Par peur du boycott dans les États du Sud, où les cinémas refusaient de projeter des films ainsi distribués. Dans les années 50, le couple qu'elle forme avec Lenny Hayton, un chef d'orchestre juif américain, est accusé d'activités anti-américaines, ce qui vaudra à Lena Horne une traversée du désert.
Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking. I'm sure they'd say, thanks for putting up so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting, put those words into action, and we mean action. Now, 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 every
Maintenant, on va terminer cette demi-heure autour des luttes afro-américaines avec un peu une présentation de l'auteur du poème qui est lu depuis le début de l'émission. Le poème étant « Quelqu'un a fait sauter l'Amérique » et l'auteur est Amiri Baraka. Il est né avec un autre nom, Leroy Jones, il se passe autre chose en 1904. Il quitte l'US Air Force pour Greenwich Village, le quartier bohème de New York, où il va vivre et il va s'engouffrer tout à la fois dans le jazz et dans le mouvement beat. Il édite Kerouac et Ginsberg. En 1960, son voyage à Cuba l'emballe. Il publie Cuba Libre. En 1964, il met en scène ses pièces, L'Esclave, puis Dutchman, Le Métro Fantôme. L'époque est aux guerres coloniales, aux émeutes pas toujours étudiantes et aux films de Jean-Luc Godard. En 1963, il publie en une somme, Blues People, dans laquelle il explique l'histoire des Afro-Américains par la musique et la musique par l'histoire. À Cooper Square, il vit dans le même petit immeuble qu'Archie Shepp. Leur projet est illimité, se réapproprier leur musique, affirmer leur autonomie, arracher le mot de jazz au margoulin. Devenu un nationaliste culturel, il rompt avec la mouvance beat en majorité blanche et se radicalise, revendiquant la violence révolutionnaire. Dans son poème Black Art, en 1965, il exige des poèmes qui tuent. En phase avec Nation of Islam, le mouvement politique dont Malcolm X est une figure, il multiplie les provocations, navigue sans souci de nuances, de l'antisionisme à l'antisémitisme. Après l'assassinat de Malcolm X en 1965, il quitte sa femme et ses deux enfants et s'installe à Harlem. Il milite dans les quartiers insalubres. C'est en 1967 qu'il change de nom et devient Amiri Baraka. En 1968, il est arrêté à Newark, accusé de port d'armes illégales et de rébellion lors des émeutes de l'année précédente dans la même ville.
Qui a tué Huey Newton, Fred Hampton, Medgar Evers, Mikey Smith, Walter Rodney? Étaient-ce ceux qui ont essayé d'empoisonner Fidel, qui a tenté de maintenir les Vietnamiens sous l'oppression? Qui a tué Rosa Luxembourg, Liebknecht? Qui a assassiné les Rosenberg et tous les innocents congelés, torturés, assassinés, éliminés? Qui a tranché les mains au Congo? Qui a inoculé le sida? Qui a infesté de germes mortels les fibres de la couverture des Indiens? Qui a inventé la piste des larmes? Qui a décidé d'instaurer la discrimination positive, la reconstruction, le New Deal, la nouvelle frontière, la grande société? Mais qui sort de la bouche des colons? Qui sait quel genre de pute est Condoleezza? Qui a payé Connelly pour qu'il devienne un nègre en bois? Qui a préparé l'incendie de Reichstag? Qui a vu Dieu selon toi? Mais tout le monde a déjà vu le diable, tel un hibou qui explose dans ta vie, dans ta tête, à l'intérieur de toi, tel un hibou qui connaît le mal, tout le jour, toute la nuit. Si tu écoutes bien, un hibou qui se consume dans le feu, nous entendons les questions dans les flammes aussi terribles que le sifflement de chiens enragés, comme le vomi acide du feu de l'enfer. Quelqu'un a fait sauter l'Amérique. Thank you.
blues booty. Skinny left it from here. Jump and twist. Not on the face.
Alors maintenant, on enchaîne un peu bizarrement, mais on va le faire quand même. Il y a eu, il y a quelques jours, une finale improbable entre le Cours de l'Isère et Bordeaux. Une finale de football. Enfin, il semblerait de football. Et donc on a enregistré du son de cette soirée-là, qui sera un formidable récit de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a juste une anecdote qui doit être racontée. Il y a eu un moment où le cours d'Isère était blindé de monde, et il y avait un gros camion de maçonnerie, évidemment, qui était là et qui allait ouvrir le cortège d'un défilé un peu sauvage dans Bordeaux. Et il voulait sortir de l'enclave qui était créée par les flics à ce moment-là, une sorte de pauvre bagnole de flics qui s'était mise de travers. Et il décide d'ouvrir la voie à ce camion de maçonnerie. Et donc, ils sont deux flics. Il y en a un qui est dans la voiture, qui est au volant. L'autre qui est derrière, qui guide son collègue. Et il va finir petit à petit, mais alors vraiment petit à petit, mais doucement mais sûrement, juste écrasé entre la bagnole de flic et conduite par son collègue et une bagnole garée derrière. Là, c'était un peu un des moments extrêmement drôles de cette soirée-là. On enchaîne maintenant avec le son du cours de l'Isère. Écoutez bien, mes petits chatons.
Aujourd'hui
10, non ?
Ok, le 10 juillet, le cours de l'Isère a gagné contre Bordeaux. Et ça, c'est une vraie victoire. On est vraiment satisfaits de ça.
Ouais,
c'est l'ambiance de feu.
Et plus qu'un zéro, quoi.
Ouais. La rue Kléber, elle commence à être dépavée totalement. Tous les parcs à enfants ont été démantelés. Bon, de toute façon, personne n'y allait.
Et du coup, les enfants courent partout.
Voilà.
Ils jettent des pétards.
Et se sont du coup réappropriés les cours de l'Isère.
Voilà.
Toutes les cloisons des appartements et d'étudiants ont été complètement défoncées. C'est partout des énormes appart comme c'était avant. On a les couteaux à la main.
Voilà, tout le monde a les couteaux à la main, tout le monde vend de la drogue.
Ça m'a l'air d'être une bande organisée, très organisée, qui se fait appeler Portugal. Qui n'a absolument rien à voir avec le Portugal.
Thank you. mettre en silence maintenant.
J'ai le foutre en l'air, j'avais le foutre en
Todo amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Vão derrubar a solidão, esse vento que nos dão, o que nos dão a comer. Que importa que diga que sim ou que não, se continua a viver. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua. Todo amor que nos prenderá, se quebrará e desfizerá em pavor, se convertia for
Thank you.